comme les Républicains ont investi le candidat Donald Trump la semaine dernière à Cleveland, c'est au tour des démocrates de tenir leur convention à partir d'aujourd'hui à Philadelphie et de lancer officiellement la campagne d'Hillary Clinton. Une campagne qui s'annonce particulièrement féroce entre deux candidats au taux d'impopularité record et qui fait chacun l'objet d'une véritable haine du camp adverse. Au-delà de la focalisation donc sur Trump et Clinton, l'élection présidentielle se déroulera dans une ambiance particulièrement tendue, reflet d'une Amérique plus divisée que jamais. Division raciale d'abord, les bavures de policiers se sont succédées début juillet et ont porté à 115 le nombre de Noirs tués par la police en 2016. Les 7 et 17 juillet, ce sont en tout 8 policiers blancs qui ont été tués, cette fois-ci par Mika Johnson et Gavin Long, deux anciens militaires qui n'ont pas caché agir par vengeance. Mais aussi, on peut parler de division sociale, de division économique, de division territoriale, qui trace la carte d'un pays profondément fracturé. Fracture ouverte d'une Amérique en campagne, c'est notre sujet du jour. Et pour parler de ce sujet ce soir autour de la table, Thomas Snegarov, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, directeur de recherche associé à l'IRIS et chroniqueur, on vous connaît bien, sur France Info, chroniqueur maison de Radio France. En face de vous, Sarah Fila-Bacabadio, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en histoire à l'université de Cergy-Pontoise et vous êtes spécialiste des minorités ethniques et notamment des Afro-Américains aux États-Unis. À côté de vous, Jean-Christian Vinel, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence également en sciences politiques cette fois. À Paris 7.
Histoire et civilisation des États-Unis.
Ah, pardon, en histoire et civilisation des États-Unis. Vous voyez, j'avais une mauvaise information. Vous êtes spécialiste des luttes sociales aux États-Unis.
Oui, histoire sociale et politique.
Histoire sociale et politique, ouais. Voilà. Vous allez nous éclairer sur toutes ces questions. Et enfin, on est au téléphone avec Alix Meyer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Bourgogne. Et vous, vous connaissez bien l'histoire électorale des États-Unis. Donc, vous allez pouvoir nous aider également à comprendre comment toutes ces fractures qu'on va évoquer pendant cette émission vont pouvoir ou non se traduire dans les urnes, pour le dire de manière un peu simple. Voilà. Donc, peut-être une première question à tous en forme de premier tour de table pour essayer de voir un petit peu comment ce sujet, finalement, des fractures américaines peut éclairer la séquence électorale qui commence, des élections présidentielles. Est-ce que ce sentiment de profonde division, c'est une réalité à l'arrivée de ces élections de 2007 ou est-ce que ces élections sont particulières selon vous, Thomas Snegarov, à ce titre?
Je pense qu'il y a quand même un mythe de l'unité américaine. C'est-à-dire qu'on a l'impression que... Combien de fois j'ai entendu que l'Amérique était divisée comme jamais ? N'oublions quand même pas que c'est un pays qui a été traversé par une guerre civile, donc c'est quand même une forme de division assez importante. N'oublions pas, on en reparlera peut-être, des divisions raciales. Jusque dans les années 50-60, elles étaient incroyablement violentes aux États-Unis. Souvenons-nous de la déségrégation, j'étais dans l'Arkansas la semaine dernière pour travailler sur la déségrégation de Little Rock. C'était quand même un événement massif dans l'histoire américaine. Et c'était pas un grand moment d'unité, donc il y a... Un fantasme de l'unité passée, même si effectivement cette année, en tout cas, le thème de la division est un thème au cœur de la campagne. C'est peut-être ça qui est un peu nouveau, c'est l'usage politique de la division dans un camp comme dans l'autre.
Jean-Christophe Vinel.
Oui, moi je crois que j'irai dans le même sens. Effectivement, assez facile de montrer que l'Amérique a souvent été divisée, que même lorsqu'elle était en guerre, par exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'unité trouvait ses limites. Mais je crois qu'on pourrait aussi revenir simplement aux élections de 2000 et de 2004, où ces questions de division entre les Red States et Blue States étaient déjà vraiment au premier plan.
Alors, c'est les Républicains et Blue, c'est les Démocrates.
Voilà, était déjà très 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 forte. On parlait d'une Amérique complètement polarisée au début des années 2000.
Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sarah Fila-Bacabadio? Vous suivez vos collègues sur ce côté
divisé,
mais c'est normal.
Divisé, c'est normal. En l'occurrence, on travaille, nous, sur ces divisions. Donc, effectivement, on a tendance à les saisir de manière un peu plus importante que le public, notamment en France. Mais effectivement, pour aller dans le sens de mes collègues, les divisions sont là. Le pays est quand même créé sur des divisions et qui réémergent à ces moments assez cruciaux et critiques que sont les élections. Et là, effectivement, pour ma part, étant spécialiste de tout ce qui est question raciale, là, on a quelque chose, on a un moment particulier... de lever en fait de tout ce qu'on avait caché sous le tapis pendant longtemps, qui réapparaît et qu'on pensait disparu grâce notamment à des thématiques comme le post-racial.
Oui, notamment l'élection de Barack Obama, on aura l'occasion d'y revenir évidemment, mais je voulais passer la parole à Alix Meyer, peut-être pour vous poser une question un peu plus précise, à partir de ce constat d'une Amérique qui arrive divisée, peut-être plus que d'habitude, mais en tout cas, c'est pas si étonnant et si étonnant que ça, Alix Meyer, est-ce que ça va se traduire de façon différente, on va dire, selon vous, dans les zones? Quelles sont les projections? Voilà, est-ce qu'on voit une Amérique, géographiquement, on va dire, qui se divise différemment d'autres périodes électorales?
Alors, déjà, j'aimerais revenir comme,
oui, je vous en prie,
comme les autres intervenants sur ce thème de la division qui est effectivement un fait central de toute l'histoire américaine. La Constitution américaine elle-même annonce que l'un des objectifs du pays est de créer une union qui serait plus parfaite. Donc améliorer cette union, c'est un combat. Et donc cette année ne fait pas exception, il va y avoir beaucoup de divisions comme les années précédentes. Alors, on a parlé des scrutins de 2000 et de 2004, mais en réalité, le phénomène de polarisation auquel Jean-Christian Vinel faisait référence est bien sûr antérieur à tout cela. Et on cite notamment la fracture des années 60 comme un moment clé où les deux partis vont commencer à s'orienter vers des positions plus extrêmes, entre guillemets, mais en réalité surtout pour le Parti républicain. Le Parti républicain va commencer à se déporter vers la droite avec l'arrivée d'un électorat du Sud, de l'ancien Sud, de l'ancienne Confédération des États-Unis. Et ce vieux Sud, c'est un électorat blanc, essentiellement à l'époque plutôt raciste, qui quitte le Parti démocrate pour rejoindre le Parti républicain et l'entraîner de ce fait vers la droite, tandis que le Parti démocrate devient de manière beaucoup plus cohérente le parti du centre-gauche et des différentes minorités.
Et ça se retrouve aujourd'hui, donc aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui ça perdure et on retrouve cette division, ou est-ce que cette élection vous apparaît différente?
C'est une accélération qu'on observe, c'est-à-dire que ce phénomène qui commence à séparer les deux partis de manière de plus en plus claire au Congrès et dans l'électorat à partir des années 60, s'accélère dans les années 90, s'accélère encore dans les années 2000, et on pensait avoir atteint un point de non-retour, parce que le problème, c'est que ça crée des blocages inhérents au sein du Congrès, et de fait, avec le problème de collaboration avec la Maison-Blanche. Et en réalité, ce scrutin montre que ce phénomène de polarisation, d'accentuation des clivages idéologiques entre les deux partis, continue de s'aggraver.
Alors la fracture, évidemment, que vous décrivez, Alix Meyer, elle se retrouve dans ces deux figures hein, de Hillary Clinton et Donald Trump, figure particulièrement impopulaire, je le disais pour commencer cette émission, personnalisation à outrance peut-être de cette élection, mais aussi Thomas Snegroff, ce qui est frappant, c'est de voir qu'il y a aussi une fracture aujourd'hui entre les citoyens et leur parti, c'est-à-dire qu'on a vu ce thème au cours des primaires, et peut-être qu'il faut signaler ça aussi, parce que ça, comment dire, ça conditionne énormément la façon dont se déroulent les conventions républicaines et démocrates. On a vu que ce soit Bernie Sanders d'un côté, bon, il n'a pas gagné, mais Donald Trump, lui, a remporté l'investiture contre le parti, en quelque sorte.
Oui, ça, c'est vraiment une... Alors là, pour le coup, on est sur une rupture, parce que il y a eu souvent dans l'histoire des candidatures qui étaient à côté du parti, qui étaient un peu contre le parti. Je pense Pat Buchanan, par exemple, pour 1992, c'était pas le candidat choisi par le parti. Mais au final, le système politique parvenait à avoir des garde-fous suffisants pour éliminer ce genre de candidat. C'est George Wallace, aussi au sein du Parti Républicain, qui est aussi finalement éliminé. Bon, alors lui, il y a carrément une tentative d'assassinat, mais qui a été quand même repoussé en dehors du parti. Là, on a, ou John Edwards, par exemple, même, hein, plus récemment, dans le Parti Démocrate. Là, ce qui est très frappant, c'est qu'on voit effectivement, la raison qui explique cela, c'est qu'en fait, lors des primaires en général, les gens qui se déplaçaient étaient plutôt les militants classiques, dans le moule du parti, et qui allaient choisir plutôt des gens pour lesquels le gouverneur avait donné son avis, le journal local. Là, on sent que tout ça est en train d'exploser complètement et que, en effet, la victoire de Donald Trump, mais aussi les succès électoraux de Bernie Sanders, qui est quand même allé très très loin.
41% des.
Ouais, c'est ça, qui est quand même allé extrêmement loin dans une. Alors que se définissant lui-même comme socialiste, qui est, selon nos grilles de lecture, quelque chose qui a, en théorie, doit éliminer un candidat, on voit effectivement qu'il y a un grand mouvement, mais qui traverse la démocratie américaine, mais qui traverse aussi l'ensemble, je crois, des démocraties occidentales. C'est pas quelque chose de spécifique. Même s'il y a aux États-Unis quelque chose de particulier, qui est tout de même une vitalité de la citoyenneté, une vitalité du civisme, parce qu'il faudrait pas uniquement voir quelque chose de négatif là-dedans. Une sorte de citoyens qui reprennent le pouvoir sur des systèmes, sur des systèmes qui semblent ne plus leur parler.
Jean-Christophe Vinel.
Oui, moi je serais tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois que Wallace en fait était démocrate.
Oui, pardon. Seulement il y a l'évolution
mais,
du parti.
Mais
oui.
Il est candidat au nom d'un tiers parti en 68. Mais je crois qu'en fait il y a deux éléments à distinguer. Le premier, c'est la profonde méfiance que ressentent un grand nombre d'Américains à l'égard de leurs institutions, notamment du Congrès, et de la capacité de cette institution à accomplir son travail législatif. Le deuxième élément, il faut toujours le garder à l'esprit lorsqu'on parle des élections aux États-Unis, c'est l'abstention. Le fait qu'un grand nombre d'Américains ne votent pas, que les Américains qui ont fait des études, qui sont aisés, sont évidemment surreprésentés parmi les Américains qui votent, et que, contrairement, on pourrait dire, à ce qui est fait en France, aux États-Unis, le vote n'est pas facilité. Il a souvent lieu en semaine. Il est parfois difficile de se libérer. Il faut s'inscrire sur la liste électorale. Dans certains États, ça peut être difficile, encore plus difficile pour les populations dites minoritaires. Et je crois que tout ça joue évidemment dans la manière dont les Américains perçoivent la politique.
Sarah Filia Bacabadio, il y a dans chaque convention ce moment où les candidats font monter sur scène un petit peu des témoins qui incarnent en quelque sorte les combats dont ils sont proches, qu'ils entendent porter eux-mêmes. Alors Trump, c'était un vétéran, la mère d'un jeune garçon qui a été tué par un immigré sans papier, ça en dit long, des dignitaires religieux. Côté Hillary Clinton, c'était plutôt justement à l'opposé, un enfant de clandestin, des musulmans, des militants anti-armes à feu. Bref, on voit se dessiner évidemment ce clivage très très important. Et est-ce qu'on peut dire aussi que ce clivage il se fait sur fond justement la question de la violence qui émerge aujourd'hui aux États-Unis, c'est-à-dire une réponse à une société qui apparaît de plus en plus violente. Même si la violence, encore une fois, c'est un vieux thème hein, aux États-Unis, évidemment.
Oui, et ça reste un pays violent de toute façon depuis la construction même du pays. Par contre, je suis pas, enfin. Pour faire référence notamment à la convention républicaine, comme je disais à Jean-Christian Vinel tout à l'heure, off the mic, dans la convention républicaine, il y a certes un certain nombre de personnages auxquels on s'attend de la sélectionner par Trump, mais il y a aussi, là cette année, il y avait un shérif, Sheriff Clark, qui venait du Missouri, qui était l'afro-américain de service, et qui en l'occurrence a construit un dialogue et un discours qui était sur la défense des policiers, plus que la défense des manifestants et des Noirs, et du corps noir, comme dirait Ta-Nehisi Coates, le journaliste.
Le journaliste qui a publié un essai très remarqué cette année.
Voilà, et qui explique que l'une des premières choses que son fils doit faire, c'est de protéger cet espace minimum qui est son corps. Et là, ce shérif explique que non, que ce n'est pas que cette division-là ne doit pas exister, et que il faut avant tout protéger les policiers, que c'est ce qui prime, que la loi prime, même si cette loi, en fait, ne protège pas les citoyens minoritaires. Donc, le choix, en fait, de cette... c'est un choix de différents types de violences. C'est-à-dire que, du côté Trump, c'est l'acceptation et la justification d'une violence étatique. De l'autre côté démocrate, c'est une tentative de déconstruction de cette violence étatique en expliquant que ça vient des armes et ça vient d'une histoire bien plus longue.
Thomas Stengaroff.
Oui, en fait, la question des armes à feu fait partie de cette fracturation aujourd'hui de la société américaine. Je regardais les enquêtes d'opinion. Alors bien sûr, vous avez aujourd'hui quasiment 90%, surtout après la tuerie d'Orlando, et la tuerie derrière va accentuer ça, vous avez quasiment 100% des Américains qui souhaitent plus de contrôle des antécédents, des acheteurs des armes à feu. Ça, tout le monde est d'accord, donc manifestement, pas de guerre culturelle, pas de scission, pas de fracturation là-dessus. En revanche, quand on pose une deuxième question, souhaitez-vous l'interdiction de telle ou telle arme, par exemple les fusils d'assaut ? Eh bien là, vous avez en seulement 52 ou 53% qui veulent plus de limitations. Donc on retrouve un clivage quasiment à 50-50. Autre grand enjeu qui structure et qui aujourd'hui fracture la société américaine, c'est par exemple la question de l'avortement. Là encore, vous avez aujourd'hui les deux tiers des Américains qui sont favorables à l'avortement sous certaines conditions. Ce qui est intéressant, c'est que, et donc un tiers contre l'avortement, quelles que soient les conditions, un peu moins en vrai, c'était à peu près à front inversé il y a 20 ans. Mais quand on regarde dans le détail et qu'on demande aux Américains, êtes-vous pro-choice ou pas? Là, c'est vraiment sur la question toute simple, pour ou contre l'avortement. Là, on a 50-50. C'est-à-dire que sur des questions aussi fondamentales, où on a l'impression de ce côté-ci de l'Atlantique que c'est réglé, bah, c'est pas réglé. C'est-à-dire qu'on a, quand on gratte un peu, des fracturations très profondes, et c'est ces fracturations-là qui donnent l'impression, je pense, assez réelle, d'une guerre culturelle. On évoquait tout à l'heure la guerre culturelle des années 60. On est sur des points comme ça de crispation extrêmement, extrêmement forts.
Alex Meyer, sur cette question de la violence, des clivages, notamment très très forts à 50-50.
Mais ce que je trouve intéressant pour rejoindre un petit peu ce qui vient d'être dit, c'est que on a effectivement des clivages en surface qui sont très forts, avec des groupes 50-50 qui s'identifient de manière totalement liée à leur affiliation partisane. Et on a l'exemple de la loi sur la réforme de la santé, donc Obamacare, qui jusqu'à aujourd'hui, les républicains sont absolument contre et les démocrates sont absolument pour, et donc on a dans l'électorat et dans la société américaine, en gros, la moitié des gens qui répondent qu'ils trouvent que c'est une bonne idée, l'autre moitié qui trouve que c'est une mauvaise idée. Mais dès qu'on demande dans le détail, est-ce que telle proposition du style interdire aux compagnies d'assurance de refuser de couvrir les personnes qui sont déjà malades, est-ce une bonne idée ? Là, on a 70-80% de gens en faveur de cette idée. Cette idée fait partie d'Obamacare. Mais à partir du moment où on met l'étiquette Obamacare, réforme de la santé associée à Obama, les gens se mettent contre des idées pour lesquelles ils seraient en réalité favorables. Donc on voit que cette fracture dont on parle, cette guerre culturelle, qui est un thème récurrent depuis les 30 dernières années, est alimentée par un clivage partisan qui masque en réalité un certain accord de la part de deux tiers des Américains sur certaines mesures. Mais les partis eux-mêmes tendent à accentuer les clivages pour leur propre bénéfice électoral, bien sûr.
Jean-Christophe Hinel.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai qu'en fait la polarisation est plus forte, hein, c'est ce que montre la science politique aujourd'hui, la polarisation est plus forte parmi les élus, les dirigeants des partis, qu'au sein de la population. Il y a des raisons à cela. Mais il me semble aussi que dans le cas d'Obamacare...
Quelles raisons, par exemple, excusez-moi, parce que...
Le financement électoral. De nos jours, les...
Oblige les candidats à radicaliser leur discours.
Oui, en tout cas, il a cet effet-là. Alix Meyer, en fait, connaît mieux cette question-là que moi, mais le financement électoral depuis de longues années, mais en tout cas de manière très claire récemment, a conduit les partis à consacrer énormément d'énergie à trouver les sommes nécessaires pour faire campagne. Il faut rappeler que les campagnes présidentielles coûtent très très cher, sans doute pour celle-ci, plusieurs milliards de dollars, si on additionne toutes les dépenses qui seront faites, que les partis, du coup, dépensent beaucoup moins d'énergie à encourager les gens à aller voter, pour se rapprocher des électeurs, et que ça induit, en fait, effectivement, un effet qui est très clair, c'est que les candidats aux différents postes ont tendance à radicaliser leur position, à montrer qu'ils sont
et aller chercher vraiment... justement les sujets qui opposent les Américains entre eux, parce que c'est là-dessus qu'on peut gagner des voix.
Alors là-dessus, on peut gagner des voix, mais le deuxième élément important, c'est qu'en fait, quand on pense notamment aux élections législatives. Toutes les circonscriptions ne font pas l'objet d'une bataille acharnée. En fait, dans un grand nombre de circonscriptions...
Et même pour les présidentielles, on parle toujours de ces fameux swing states qui sont au nombre...
Alors, il y a les swing states,
11, 13,
mais si on descend au niveau plus local, on voit qu'il y a des circonscriptions qui sont républicaines, des circonscriptions qui sont démocrates, et où ce n'est pas la peine de dépenser beaucoup d'argent pour essayer de faire battre le candidat sortant qui va être réélu.
Et ce qui d'ailleurs s'explique par ce qu'on est en train de montrer ce soir, à savoir les fracturations. C'est que vous avez aujourd'hui des communautés qui vivent les unes à côté des autres. Et effectivement, quand on arrive à bien redécouper, notamment tous les 10 ans, quand on redécoupe pour la Chambre des représentants, on arrive effectivement à peu près avoir une homogénéité démocrate, une homogénéité
Et là, il faut juste rappeler un élément important, c'est que c'est le parti qui est au pouvoir qui est chargé du découpement électoral. Et que les partis aujourd'hui disposent de logiciels très sophistiqués qui leur permettent d'organiser un découpement électoral qui protège un grand nombre.
Mais pourtant, il y a quand même une alternance, donc ça montre que c'est pas une science absolue et exacte. Ouais. Sarah Phila Vakabadios, sur ce que vous venez d'entendre, justement, sur le fait qu'aujourd'hui, il y a très peu d'endroits qui sont vraiment déterminants aux États-Unis sur ces élections, parce que partout ailleurs, on a une sorte de communautarisation, si j'ai bien compris ce que vous dites, ou en tout cas une façon d'organiser l'espace qui fait que, voilà, on a des communautés qui vivent les unes à côté des autres. Et on sait ce qu'elles votent.
On sait ce qu'elles votent et on les a un peu aidées.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, par exemple, si on prend Los Angeles, dans certains quartiers comme South Central, on a une majorité de Latinos ou une majorité plutôt d'Afro-Américains et d'une classe sociale particulière qui sont les classes très pauvres. Et donc, de facto, les questions qui intéressent ces populations-là sont à la fois des discriminations raciales et des discriminations économiques. Donc, et les gens qui ont des moyens plus aisés partent de ces quartiers-là et vont se regrouper dans des quartiers où ils pourront acheter une maison, enfin voilà, ce qui est à peu près logique. Donc effectivement, on peut assez rapidement voir en fait si un quartier va être plutôt démocrate et si une population ou une communauté va être plutôt démocrate ou républicaine. Ça, c'est assez aisé. Mais c'est aussi parce que par exemple, le Parti républicain n'adresse pas en fait des questions sociales qui sont liées à ces populations-là et ces couches-là. Désormais, avec Trump, c'est aussi un argument pour les classes sociales blanches pauvres. Mais c'est choisir de diviser le pays selon une ligne raciale et économique à la fois. Donc oui, on peut voir assez facilement où les gens votent, pourquoi les gens votent, selon leur appartenance économique et raciale.
Alex Meyer ?
Oui, non, c'est tout à fait exact. Mais ce que je pense qu'il est important de noter, c'est déjà la première chose sur le redécoupage électoral. Vous dites qu'il y a une alternance et donc ça prouve que ça marche pas. Il faut voir que le redécoupage électoral ne concerne que les circonscriptions à la Chambre des représentants. Et à la Chambre des représentants, il y a une majorité républicaine depuis 2010 qui va se perpétuer quoi qu'il arrive en novembre. Donc on a une forme de mainmise sur la Chambre des représentants de par le contrôle du redécoupage électoral par les républicains dans les États. Donc ça, c'était la première chose. Et la seconde, c'est pour revenir sur ce clivage et ce clivage racial du point de vue républicain. Jusqu'à présent, en fait, ce qui semble changer avec Donald Trump, c'est l'affichage. Le Parti républicain était devenu le parti des Blancs, de manière claire, depuis... On peut être un petit peu en désaccord sur certains placements chronologiques, mais au moins depuis les années Reagan, on voit clairement un affichage en faveur de l'électorat blanc, mais qui se présente de manière idéologique comme le parti de tous les Américains, de tous ceux qui veulent défendre la liberté, tout le discours républicain traditionnel. Et ce n'est que cette année avec Donald Trump que le Parti républicain au niveau présidentiel s'affiche ouvertement comme le parti de l'électorat blanc. Alors bien sûr, en se défendant en détournant le slogan Black Lives Matter pour dire que toutes les vies comptent, mais l'originalité de la candidature de Trump dans ses primaires et son originalité en tant que candidat aux élections présidentielles, c'est qu'il fait ouvertement campagne pour un certain électorat qui est un électorat blanc.
Black Lives Matter, il faut rappeler que c'est ce mouvement qui a été lancé suite à Ferguson, un jeune noir qui avait été tué par un policier blanc. Ça avait entraîné un certain nombre d'émeutes en août 2014, je crois, il y a 2 ans. Vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre, Sarah Phila Vakabadios ?
Alors, effectivement, le Parti républicain est quand même à majorité blanche et s'adresse à un public à majorité blanche.
Rappelons qu'aux États-Unis, on estime qu'il y a 12% de noirs, mais que blanc, c'est exclut aussi les latinos,
les américains, mais les caucasiens.
Voilà.
Juste à la convention, il y avait que 0,7% des délégués du Parti républicain qui étaient des noirs, alors qu'il y a 10% du corps électoral qui est noir.
Oui.
Sarah Phila Vakabadios.
Mais alors, effectivement, les catégories excluent les autres, mais c'est aussi lié aux catégories du recensement. Mais le Parti républicain reste effectivement un parti blanc à majorité blanche et qui s'adresse à un public à majorité blanche.
Mais c'est une innovation, ça, comme vient de le dire Alix Meyer, d'avoir ouvertement, s'adresser ouvertement à ces blancs défavorisés, qui n'ont pas de voix, les sans-voix, comme le dit...
Alors, s'adresser à un public blanc, non, c'est pas une nouveauté à mon sens. Parce que il y a eu un choix, et effectivement notamment lié à Reagan, de ne pas discuter et de ne pas s'intéresser aux questions de discrimination raciale pendant très longtemps, de ne pas soutenir ces questions-là, même si on se présente comme un parti national. Puisqu'il y a ce double jeu, en fait, entre on est un parti national qui, au même titre que les Républicains, représente la nation entière, excepté certaines thématiques qui sont de toute façon des thématiques premières et très importantes pour les minorités, puisqu'elles sont confrontées à ça tous les jours. Donc, c'est pas une nouveauté. La nouveauté, c'est que Trump en a fait un argument politique et un argument qui dit « il faut préserver une majorité blanche ». Et je m'adresse aux blancs pauvres comme, en fait, on s'adressait dans les années 60 à ces blancs pauvres en leur expliquant que, oui, vous êtes aussi pauvres que ces minorités, mais au moins vous êtes blancs. Mais au moins vous avez ça. Et cette perte, en fait, d'un minimum de hiérarchie est aussi quelque chose qui manipule comme quelque chose qui peut faire voter pour lui. Et ça fonctionne.
Jean-Christian Vinel, c'est la question, elle est raciale, comme on vient de le dire avec Sarah Philippa Cabadio, mais elle est aussi sociale, c'est-à-dire c'est la question du déclassement aussi qui est importante. C'est la fusion en fait des deux, si je comprends bien depuis le début.
Tout à fait. Mais comme Sarah Philippa Cabadio, je crois que ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau chez Trump, c'est la brutalité de la rhétorique. Mais il faut se souvenir de Nixon qui fait candidat au nom de la majorité silencieuse, qui ne manifeste pas. Il faut se souvenir de Ronald Reagan qui va dans le Sud en campagne en 1980 et qui dit qu'il est partisan du droit des États. Langage codé disant que en matière de relations raciales, les États du Sud devraient avoir plus de marge de décision. Il faut se souvenir de Reagan faisant campagne contre les welfare queens, ces reines de l'assistana, qui est aussi un langage codé pour parler des Noirs américains. C'est-à-dire que le Parti républicain, effectivement, on pourrait dire en fait, s'intéresse aux questions raciales, mais effectivement dans un sens vraiment réactionnaire. Hein. C'est Reagan qui œuvre contre l'affirmative action. La discrimination positive dans les années 80. S'agissant du déclassement, je crois qu'effectivement, on peut dire c'est un sentiment très fort chez la classe ouvrière blanche, parmi la classe ouvrière blanche qui soutient Trump. Tout à fait.
Sarah Philippa Cabadio, vous voulez réagir?
Oui. Et je pense qu'on est aussi dans un moment assez particulier qui autorise, en fait, ce genre de discours. Je pense particulièrement au fait que en 2015, on a eu l'anniversaire du Voting Rights Act et on a aussi eu des modifications en fait de ce texte qui en fait amoindrit en fait le caractère discriminant en disant voilà, on n'a plus besoin de la catégorie de race pour dire que on a besoin de affirmative action ou Voting Rights Act, plus de droits spécifiques. Et ça, c'est aussi un sacré signal par rapport en fait à une lutte dans les années 60 qui voulait une égalité, mais sans cette mesure-là, tout le monde sait que d'autres mesures de discrimination, d'accès au vote peuvent être mises en place par des différents États. Et donc c'est aussi un moment particulier où il y a aussi une dégradation en fait, de ce qui a été acquis dans les années 60 qui permet à des locuteurs comme Trump de se dire « eh ben, c'est maintenant ». Et je peux utiliser ça maintenant pour être élu.
Thomas Stengel. Oui, avec l'hypocrisie de la Cour suprême qui, en détricotant le Voting Rights Act, avait justifié en disant...
Rappelez-nous le Voting Rights Act.
En fait, c'est en gros un ensemble de lois qui vise à faire sauter toutes les discriminations légales ou pseudo-légales que l'on mettait au suffrage de minorités. Qui était très utilisé dans les États du Sud pour empêcher, par exemple, on demandait aux gens d'avoir leur carte d'identité sur eux, de savoir lire et écrire.
C'est-à-dire qu'on mettait des propriétaires fonciers.
Voilà, que son grand-père vote aussi. C'est-à-dire qu'il y avait des tas de choses qui ont été détricotées par Lyndon Johnson quand il était président en 65 dans le Voting Rights Act. Et il y a quelques années, 2012, je crois, de mémoire, la Cour suprême a enlevé quelques articles importants en expliquant qu'il n'y a plus besoin de le maintenir dans la législation parce que désormais, il n'y a plus de discrimination. Et effectivement, c'est ouvrir la boîte de Pandore, et on sait très bien que dans des États du Sud, on commence à avoir on n'en est plus quand même à lire ou écrire, mais on est effectivement à présenter tel ou tel document officiel en sachant très bien qu'il y a des communautés où on est dans des telles situations de déclassement social et économique qu'on n'a pas forcément toujours les documents sur soi. Et donc par petites touches comme ça, on peut essayer de remettre en cause des choses fondamentales de la démocratie américaine, mais on le voit très fragile.
Du grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois.
France Culture, il est 18h45 et ce soir dans le grain à moudre d'été, on pose cette question: fracture ouverte d'une Amérique en campagne, avec plusieurs invités. Thomas Snegroff, qui est historien ici autour de la table, Sarah Filabacabadio, qui est historienne également, spécialiste des questions ethniques et raciales, Jean-Christian Vinel, maître de conférence en civilisation nord-américaine. Voilà, ça y est, j'y arrive. Enfin, je l'avais pas noté tout à l'heure. Et enfin, Alix Meyer, qui est au téléphone, maître de conférence à l'Université de Bourgogne, spécialiste de l'histoire électorale des États-Unis. Avec vous, on a commencé véritablement... Oui, Thomas
Snegroff. Juste prolonger un tout petit peu
avant. Même que j'ai eu le temps de dire de
oui, juste avant, justement, parce que vous allez passer à autre chose. Mais juste avant, parce qu'on dit, oui, Trump est... ouvertement raciste, si j'ai bien compris. Et on a montré qu'il y en avait déjà avant lui qui le faisait de manière peut-être un peu plus fine. Mais je trouve que ce que Trump arrive à faire, c'est à expliquer qu'il y a des bons migrants, des mauvais migrants. Donc, il n'a pas fait le deuil, je crois, des électeurs latinos. Même si peut-être au final, ça ne se verra pas.
Figurez-vous, vous me servez la transition, parce que j'allais passer à autre chose, mais pas totalement non plus. Parce qu'on a beaucoup parlé de Trump, mais on n'a pas du tout parlé d'Hillary Clinton sur cette question. Et donc, la question assez simple, c'est de savoir si elle va en profiter. Revenir vers Alix Meyer, qu'on n'a pas entendu depuis longtemps, c'est ce clivage. Voilà, on dit souvent que Hillary Clinton, les votes noirs et latinos lui sont acquis. Est-ce que encore plus avec Trump, est-ce que c'est une idée reçue?
Alors non, c'est pas vraiment une idée reçue, mais c'est une idée à préciser. Et ça, en fait, on continue sur la discussion qu'on vient d'avoir, puisque c'est dans un système à deux parties, la perte d'un parti font les bénéfices de l'autre. Et la différence entre le fait que le Parti républicain ne s'intéresse pas aux minorités cette année par rapport aux années précédentes, c'est cet électorat latino. Donc certes, Ronald Reagan a eu la rhétorique dont on a parlé, certes, d'autres présidents républicains ont toujours ignoré les Afro-Américains depuis les années 30 en réalité, mais pour des raisons très simples, c'est que les électeurs afro-américains votent démocrate à 70, 80, 90% depuis le président Roosevelt. Donc là-dessus, il n'y a pas de surprise. Ce qui change cette année, c'est la décision assez surprenante du point de vue stratégique du Parti républicain d'abandonner l'électorat latino. Puisque choisir Donald Trump, dont la campagne est axée sur l'idée de construire un mur avec le Mexique, c'est obligatoirement tirer un trait sur actuellement peut-être 10, 12, 13, 14% de l'électorat qui est hispanique. Donc nécessairement, Hillary Clinton va en profiter et ça va l'aider. Mais là où ça rejoint les histoires de ségrégation par le vote, c'est que ces électeurs hispaniques sont pour la plupart situés dans les États du sud-ouest, sud des États-Unis, dont certains ont tenté ces dernières années de mettre le plus d'obstacles possibles sur la route des électeurs pour empêcher ces nouveaux électeurs hispaniques d'aller voter. Donc certes, les électeurs hispaniques sont favorables à Hillary Clinton, mais ce qu'il faut bien voir, c'est combien d'entre eux vont être à la fois en mesure et vont vouloir aller voter pour Hillary Clinton.
Sarah Filabacabadio, est-ce que ces votes hispaniques ou ces votes afro-américains sont suffisamment structurés? Est-ce qu'aujourd'hui se structure politiquement peut-être aussi de manière différente? On a parlé de Black Lives Matter tout à l'heure. Et est-ce que c'est encore une fois de nature à aller plutôt du côté démocrate? On l'a dit ces derniers temps, c'était plutôt ça. Ou est-ce que non, tout simplement?
Alors traditionnellement, ce serait plutôt effectivement, la balance pencherait plutôt du côté démocrate. Il faut penser qu'il y a aussi les caucuses, donc les groupements en fait à l'intérieur des différents partis qui représentent aussi chaque minorité ethnique. Donc vous avez le Black Caucus pour les Afro-Américains, l'Hispanic Caucus, Asian Caucus, etc. Et donc ces organes internes au parti, en fait, faisaient du lobbying aussi à l'intérieur du parti pour que les thématiques, notamment de discrimination ou de promotion ou d'immigration, notamment pour les hispaniques, soient plus visibles et soient travaillées par le parti. Là, effectivement, on a un autre acteur qui est Black Lives Matter et qui, du coup, rebat les cartes, en fait.
Vous parliez tout à l'heure des années 60. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de réactivation, justement, des thèmes ou en tout cas, d'une forme de militance qui existait à cette époque-là?
Alors, il y a une réactivation du militantisme, oui. Par contre, je serais plutôt prudente quant au parallèle avec les années 60, dans la mesure où, oui, stratégiquement, on a des manifestations pacifiques et qui s'opposent à la police, qui est le point de départ. La différence, c'est que là, on a un format de réseau. On n'a pas, comme dans les années 60, des organisations avec à leur tête, en fait, des leaders qui dirigent et qui définissent la stratégie des différents groupes. Les années 60, Martin Luther King et autres pensaient à la stratégie. La stratégie non violente des marches, c'était eux. C'était aussi les syndicats étudiants. La stratégie un peu plus violente après des nationalismes qui disent « ça suffit, on en a assez de se faire attaquer par des policiers ou des chiens de policiers », c'est aussi pensé
par... Comme les Black Panthers, par exemple.
Comme les Black Panthers, oui, qui était aussi une référence américaine.
On a vu récemment, notamment, je crois que c'était dans Libé, deux pages, pour expliquer qu'il y avait un renouveau du suprémacisme noir.
Ah oui. C'est à prendre aussi avec précaution. Alors, les Black Panthers ont été créés au milieu des années 60 par deux personnes, Huey Newton et Bobby Seale. Huey Newton n'est plus là. Et là, dans les années 90, quelqu'un en fait a voulu recréer ce parti sans l'accord en fait des anciens. C'est le cas. Le parti existe, le New Black Panther Party, qui du coup profite de cette occasion-là pour être visible. Ce qui n'était pas le cas. Donc je suis pas encore sûre pour le moment.
Que ça puisse peser, par exemple.
Pas forcément. C'est de la visibilité. C'est-à-dire que ce qu'a retenu cet organisateur-là, c'est qu'il faut se montrer dans des lieux publics, dans des lieux de pouvoir, avec une rhétorique visuelle. Les blousons noirs, les bérets et les armes à feu, ça marche toujours beaucoup mieux qu'une manifestation avec des pancartes.
Et parfois enrôler Beyoncé peut-être dans cette esthétique.
Enfin,
ça marchera d'autant mieux. Thomas Negaroff, peut-être pour terminer, puisqu'il nous reste quelques minutes dans cette émission, on a beaucoup parlé des clivages finalement sociaux et raciaux, puisque c'est ça qui c'est ce mélange finalement on voit qui dessine une Amérique encore plus divisée à l'occasion de ces élections. Il y a aussi le clivage, on a tout petit peu parlé au début, au sein des partis. Est-ce que les partis républicains et démocrates arrivent en ordre de marche, pourrait-on dire, pour récupérer bien analyser et pouvoir parler à cette Amérique très divisée?
On le voit pas vraiment. Quand on voit que c'est Donald Trump qui est le candidat du Parti républicain et que Bernie Sanders est aux portes de l'obtenir, je crois qu'il y a un autre clivage. Il y a une autre fracture qu'on n'a pas beaucoup évoquée, c'est la fracture liée à la globalisation, à la mondialisation, aux frontières. Vous avez aujourd'hui une ligne de fracture extrêmement forte entre eux, des gens, notamment les partis, voilà. Là, on est sur l'establishment, le système, qui considère que la mondialisation, bien sûr encadrée, que la globalisation, elle crée de la richesse, elle crée de l'ouverture, elle permet aussi à l'Amérique de diffuser ses valeurs. Et vous avez des gens comme Donald Trump, par exemple, et des modalités très différentes avec Bernie Sanders. Je suis pas en train de dire que c'est la même chose parce qu'on est vraiment sur des polarisations très, très différentes, mais.
Même si Donald Trump a commencé à parler à ceux qui pensaient être les électeurs de Bernie Sanders qui pourraient être déçus par Hillary Clinton, et sur ce thème, justement, des laissés pour compte de la mondialisation.
Oui, voilà, avec cette idée, et c'est ce qu'Assassin le montre bien, des expulsés.
C'est une sociologue américaine.
De la brutalité de la mondialisation qui crée des expulsés qui peuvent être des territoires, des activités et des hommes. Et là, on a quelque chose de très fort. Et vous allez voir, cette semaine, dans la convention des démocrates, ça va être la globalisation, c'est formidable, l'ouverture des frontières, c'est très bien. Alors, il va y avoir des nuances parce qu'on sent bien que l'électorat n'est plus à l'écoute de ça. Mais en face, vous avez quelqu'un qui réagit en disant il faut mettre des murs, il faut sortir de l'OMC, il faut être réticent avec l'OTAN. On a deux visions du monde quasiment opposées. Et là, on a une ligne de clivage, peut-être pas au sein même de la société américaine, mais en tout cas entre les élites et les Américains.
Jean-Christian Vinel, cette fracture élite américain moyen, pourrait-on dire, c'est vrai qu'elle est très présente et elle va jusqu'à renverser finalement ce qu'on pensait être des tabous, on vient de le dire par exemple, Donald Trump qui dénonce le libre-échange. côté républicain, ça paraît complètement dingue.
Ouais. Ça paraît complètement dingue, mais il faut se souvenir, Donald Trump l'a rappelé il y a quelques semaines, que le parti républicain n'est pas ou n'a pas toujours été le parti conservateur. Ce qui, moi, me semble intéressant dans ce qui se passe actuellement avec Donald Trump, c'est que la classe ouvrière blanche, comme le rappelait Alex Meyer, depuis la fin des années 60, a voté massivement pour les républicains. Élection de 2014, c'est un électorat que les démocrates ont perdu de 30 points. Une des raisons pour lesquelles cette classe ouvrière blanche, qui faisait partie de l'électorat du New Deal, s'est éloignée du Parti démocrate, ces raisons tiennent au fait que cette classe ouvrière ne comprenait pas vraiment dans les années 70 les nouvelles orientations de ce parti. Les orientations vers les droits des...
C'est les électeurs de cette fameuse Rust Belt, cette zone, on va dire,
désindustrialisée. Notamment dans la Rust Belt, oui. Dans la Rust Belt, mais aussi ailleurs, on voit les ouvriers qui s'opposaient aux politiques d'affirmative action, parce qu'ils se sentent victimes, aux politiques de busing. Pendant une brève période aux États-Unis, on a tenté d'emmener pour favoriser l'intégration raciale les enfants en bus d'un quartier à l'autre. Ils se sentent aussi déroutés par ce qu'ils perçoivent comme étant le relativisme moral des libéraux américains. Je rappelle qu'aux États-Unis, les libéraux sont plutôt la gauche de l'échiquier politique, et un grand nombre d'ouvriers, en fait, appartient à ce qu'on pourrait appeler la droite chrétienne. Donc ces ouvriers votent pour un certain nombre de raisons, mais pas économiques, pour le parti républicain depuis les années 70. Ils font partie de cette majorité silencieuse que Nixon avait réunie. Mais le parti républicain, lui, poursuit des politiques néolibérales qui précarisent ses électeurs. Et aujourd'hui, ces électeurs sont en train de rappeler au parti républicain qu'ils sont susceptibles de suivre un candidat populiste qui ne ressemble en rien à Ronald Reagan.
Qui a été nominé un peu contre le parti.
Contre le parti. Voilà.
Alex Meyer, sur cette question, il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc assez rapidement, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est simplement pour confirmer tout ce qui vient d'être dit. Et ce que vous évoquiez, le clivage entre la base et les élites, est un mouvement qu'on observe aux États-Unis depuis l'émergence du Tea Party, notamment, qui en est une manifestation, et Donald Trump n'en est que la nouvelle manifestation. Et ça présage effectivement, du côté démocrate, un clivage un peu similaire, puisque on a vu ces dernières heures là que l'équivalent de la secrétaire générale du parti a dû démissionner face aux accusations d'avoir favorisé...
Oui, on n'en a pas parlé, mais en effet, il y a eu WikiLeaks qui a diffusé des mails du parti démocrate.
Donc, l'institution même des partis est tout aussi fragilisée par cette montée du populisme aux États-Unis finalement.
Sarah Filabacabadio, pour terminer sur cette question, les présidentielles américaines sont désormais tellement polarisées qu'elles se gagnent plus du tout au centre. Voilà, ça y est, c'est fini. Il faut aller chercher aux extrêmes.
Oh, j'espère que non. Ce sera la fin de la démocratie américaine. Mais peut-être pas. Moi, j'ai un espoir, c'est dans les électeurs. Et dans certains électeurs, et dans la mobilisation de certains électeurs à se dire « on veut une autre Amérique ». Mais ça suppose un engagement de leur part et de proposer quelque chose. S'il y a bien une trace qu'on devrait garder de la présidence Obama, sans idéaliser le moment, c'est qu'en 2008, les gens se sont mobilisés. Et que des idées sont venues de la base et ont influencé en fait les sommets du parti. Et donc ce que j'aimerais, ce que j'espérais, même si j'y crois assez peu, c'est que ça, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un réveil comme ça, quelque chose qui se passe à la fois dans la convention démocrate là qui va arriver, enfin en obligeant en fait Hillary Clinton à poser certaines questions auxquelles ils aimeraient qu'elle s'adresse, et puis plus largement jusqu'en novembre en fait que les gens agissent en citoyen, puisqu'être citoyen américain c'est ça aussi, ça veut dire agir dans la société et influer sur la société.
Et bien écoutez, on va voir si votre désir et votre attente est remplie. Sarah Filabacabadio, en tout cas merci d'avoir été parmi nous ce soir, merci à vous Thomas Snegarov, Jean-Christian Vinalet au téléphone,
merci.
Alix Meyer de nous avoir éclairé finalement sur les enjeux de cette élection américaine à venir et sur les grandes fractures qui traversent la
la société et qui vont probablement influencer sur le vote. Je dois remercier également toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission, qui me l'a préparée d'ailleurs, Alexandre Ajache, Catherine Denet et Tanguy Omri. À la réalisation, c'était Anne Depelchin, à la technique Jacques Hubert. Le grain à moudre d'été, c'est à réécouter et podcaster sur franceculture.fr.